Shalom, assalam alaikum, mercredi 31 mai 2023, pendant que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos filles et nos fils sont au deuxième jour de la composition de l'examen du bac 1, nous leur souhaitons bonne chance. Et nous sommes au Club La Presse aujourd'hui pour vous parler des questions de santé. Et également reparcourir l'actualité sociopolitique telle que les journaux en ont parlé aujourd'hui. Également, une organisation mondiale qui a sa branche togolaise chez nous ici. Il s'agit d'un club Rotaract qui célèbre ses 10 ans avec quelques activités au programme. Voilà le menu du Club de la Presse que vous suivez sur Canal FM dans Lomé et ses environs, mais également sur Radio Lumière qui émet depuis Anéro, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Daoul à Bassa, mais également les radios numériques Ebene Radio, Radio Le Bénin ou toutes autres applications qui transportent le Club de la Presse depuis ce studio jusque dans le monde entier. Et c'est grâce aux techniciens, le duo Vitogbe Kokou Michel Tomega et Jero Dakoucha. Le sage nous dit en prélude à cette émission de prendre le temps de nous arrêter, car le temps, lui, ne s'arrête pas. Encore une fois, prenons de temps en temps le temps de nous arrêter, car le temps, lui, ne s'arrête pas. Et s'il s'arrête, ça devient deuil dans les familles, dans le pays, comme nous allons en parler avec une grande personnalité qui nous a quittés il y a quelques jours et dont nous venons de prendre connaissance à l'instant même du programme de ses obsèques. Laissez-moi vous présenter le tableau, le plateau ici. C'est Estelle Koudjonou de Gazelle Info. Bonjour.
Bonjour Sasso. Bonjour aux confrères en studio, également à l'invité. Bonjour aux techniciens. Bonjour également aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Merci confrère. Donc Abbas Issaka, Jaloux pour les intimes, Le Mania Libéré. Bonjour.
Bonjour Jaloux. Bonjour à tous les auditeurs et autrices qui sont en train de nous écouter.
Merci, confrère, encore, donc, Gadiel Gameli Tchonyadji de Santé et Éducation. Bonjour.
Oui, ça, c'est bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Auditeurs et auditrices.
Et auditrices.
À commencer par ton épouse.
Effectivement.
Sinon, après l'émission, tu vas rentrer à la maison et ça va être un mini deuil.
Pas du tout.
Merci beaucoup. Eh bien, notre invité, je le garde encore pour moi un moment. Mais vous le découvrirez très très bientôt. Je le disais tantôt, le sage qui nous dit aujourd'hui de prendre le temps de nous arrêter, car le temps ne s'arrête pas. Et si le sang s'arrête dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne n'est plus. Il en est ainsi de Monsieur Aboudou Assouma, qui n'est plus du monde des vivants depuis 5 jours, qui s'en est allé. Aujourd'hui, les journaux nous le rappellent comme le messager qui ouvre une page nécrologie intitulée « Il s'en est allé ». Et naturellement, il, c'est Aboudou Assouma, pendant que Liberté, lui aussi, met à la rubrique caricaturement votre cour constitutionnelle, Aboudou Assouma est retourné chez le père. C'est vrai que ces 18 dernières années, Aboudou Assouma a été intimement associé à la cour constitutionnelle, mais il avait une autre vie, sinon d'autres vies. C'est ce que nous rappelle Togo Matin, qui écrit, lui, Aboudou Assouma, l'autre artisan de la Commission nationale des droits de l'homme, qu'il ne faut surtout pas éclipser. Et juste rappeler à Abbas Issaka que Aboudou Assouma, unanimement, est reconnu parmi les siens comme un juriste émérite. Il est né dans les années 1945. Il a fait ses études de droit en France, comme il a fait également l'école supérieure de magistrature en France. Et revenu au pays, il a occupé diverses fonctions. Il a été tour à tour juge d'instruction, substitut du procureur de la République, procureur de la République, procureur général près la cour d'appel de Lomé. Il a été également pendant un moment un ministre de la Défense, un ministre délégué à la Défense auprès d'un certain Gnassingbé Yadema. Il a été le premier vice-président de la CNDH à la création en 1987. Et puis, il a présidé depuis 2007 jusqu'à sa mort la Cour constitutionnelle.
Oui, effectivement, c'est un grand homme.
Ce fut
un grand homme. On ne peut que lui souhaiter un bon repos, que le Seigneur Allah le Tout-Puissant l'accepte dans son royaume. Parce que sur le plan religieux, c'est quelqu'un aussi d'immense. Il a eu à offrir une grande mosquée aux musulmans d'Aïdogoma également.
Oui.
Donc, c'est quelqu'un qui...
Il n'a pas seulement offert une mosquée, il a également offert un cimetière musulman.
Un cimetière musulman, oui. C'est ce cimetière dans lequel il a dit qu'il faut moderniser désormais les tombes musulmanes. Et ce qui fait que quand vous arrivez au cimetière musulman, il y a deux catégories de tombes. Là où lui l'a réservé pour ceux-là qui veulent être enterrés avec qu'on fasse la construction comme on le fait au niveau des églises et les tombes normales qu'on enterre au niveau des musulmans. Donc, paix à son âme. Il a été un grand homme. Je me rappelle quand on racontait de lui, Maître Agbebo.
Donc il fut un grand ami depuis les bancs du collège à Sokoré.
Lorsqu'il a fallu créer la Commission nationale des droits de l'homme, c'est Maître Agbebo, feu Maître Agbebo, qui est venu voir Gnassingbé Yadema qu'il fallait mettre en place une Commission nationale des droits de l'homme. Puisque en ce temps, dans les années 87, le pays était dirigé de main de fer par Yadema, celui qui va parler de la violation des droits de l'homme est pris comme quelqu'un qui est l'ennemi numéro un. Donc, Agbebo était allé à une réunion à Genève. Il est revenu faire le compte-rendu à Feyadima et il a proposé qu'il y ait une commission nationale des droits de l'homme. Et après réflexion, Feyadima a accepté. Lorsqu'il a accepté, il a demandé à Agbebo qui est-ce qu'il voulait l'accompagne. Et Agbebo a désigné le magistrat Abdou Assouma pour l'accompagner. Et à leur retour, ils ont fait le compte-rendu et immédiatement le Féyadema a accepté la création de cette commission. Et Agbebo était le président de cette commission, Abdou Assouma le vice-président de la commission.
Et une certaine Awanana Daboya était la rapporteure générale et un certain Artem Aoumé Zounou était le secrétaire administratif
de cette commission
de la CNDH en octobre 1987.
Donc il y a après dans son rôle de magistrat également, il était procureur lorsque le 5 octobre 1990 les jeunes étudiant avait été jugé. C'est lui qui jouait le rôle de procureur de la République. Et je me rappelle que c'était le juge Jacques Boutoum, l'actuel ministre de la Justice, qui était le président du tribunal en ce moment-là. Donc, ça a évolué comme ça jusqu'à ce qu'il ait eu 2007, il occupe le poste de la Cour constitutionnelle.
Son parcours fut grand et long. Il s'en est allé, mais Joachim Kokuloko, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditeurs auditrices de Canal FM.
On peut retenir que Abdou Assouma fut un magistrat émérite, d'après les témoignages du monde des juristes, mais on peut également retenir que Abdou Assouma fut un fidèle parmi les fidèles de Gnassingbé Yadema à Fort Gnassingbé. Jusqu'à sa mort il y a quelques jours.
Oui, c'est celui qu'on pleure aujourd'hui est un éminent juriste, ou bien un des plus grands juristes du Togo. Et donc, c'est quelqu'un qui a dirigé d'une main de maître la Cour constitutionnelle, et c'est quelqu'un qui est une source d'inspiration pour les juristes togolais par rapport à son intégrité, au travail bien fait et à son dévouement. On ne peut que dire paix à son âme.
Voilà, selon le programme officiel, programme de ces obsèques, dont je viens d'avoir Estelle Koudjonou, ce sera le lundi 5 juin, déjà à 8h30. De 8h30 à 11h30, il y aura les hommages officiels à la place des fêtes de la présidente de la République. Et puis 12h30, la prière funéraire à la mosquée du centre islamique Kadhafi de Lomé, suivi de l'enterrement au cimetière d'Adetikopé. Et puis, ça en sera fini pour Abdou Assouman, du moins c'est sur terre. Le reste, ce sera entre lui et son Dieu créateur.
C'est bien ça. Il finit ainsi son parcours sur terre. Il mérite ces hommages-là, même s'il est toujours souhaitable qu'on rende ces hommages du vivant de la personne, peut-être tout être humain. Il est souvent remarqué que c'est après le décès des éminentes personnalités ou de toute autre personne qu'on les célèbre plus. Donc faisons l'effort à partir de ce moment de célébrer toutes les personnes sur nos chemins de leur vivant. Et ensuite, ils auraient reconnu ce qu'ils représentent pour nous de leur vivant avant qu'ils ne partent les pieds devant par après. Donc, bon repos éternel à son âme et que la Providence veille sur sa famille ici-bas.
Merci. J'ai sollicité et obtenu trois audiences de sa part. Et la première fois, à son domicile à Didjolé, il m'a remarqué, il m'a regardé, il m'a dit... Vous avez osé venir chez moi à la maison, me poser ces questions. En tout cas, je vous trouve courageux, continuez ainsi. Merci donc à Abdou Assouman qui s'en est allé. Et voilà. Maintenant, sans transition, j'en viens à notre invité, Benoît Kenvi. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour chers auditeurs et auditrices de Canal FM. Bonjour chers techniciens.
Vous êtes bel et bien vivant.
Oui,
n'est-ce pas?
Oui.
Merci beaucoup, merci de nous rassurer. Eh bien, vous êtes le président du Rotaract Club Lomé Zénith, n'est-ce pas?
Oui, affirmatif.
Et vous êtes dans la foulée de vos 10 ans.
Exact.
Félicitations pour les 10 ans et vous en aurez 100 ans, 1000 ans, même après vous. Eh bien, qu'est-ce que vous mettez au programme de vos 10 ans au Rotaract Club Lomé Zénith?
30 mai 2013, 30 mai 2023, ça fait 10 ans que le Rotaract Club Lomé Zénith est né. Au programme, nous avons commencé hier par une messe à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hankopé. Aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas si je vous informe, mais ça, c'est la journée anti-tabac. Aujourd'hui, donc, nous avons une action digitale. Non, mais
répétez ça, s'il vous plaît. Surtout pour certains auditeurs qui nous écoutent actuellement, rappelez que
c'est la journée anti-tabac.
Merci beaucoup.
Donc, nous avons une action digitale. Ça se passera sur les réseaux sociaux parce que nous sommes plus réseaux sociaux avec d'autres clubs du Togo ainsi que du Bénin. Demain, nous retournons à la première action que nous avons faite déjà en 2013 qui est un don de vivre et de non-vivre à la brigade pour mineurs de Lomé. Donc, nous allons faire ce don-là demain. Et le vendredi 2, nous serons en soirée à la salle des fêtes du stade de Kégué pour un gala de charité.
Donc, hier, c'était pour prier. Aujourd'hui, vous associez à la campagne anti-tabac. Ensuite, demain.
Demain, ça sera le don à la brigade pour mineurs de Lomé. Et après, demain, vendredi 2 juin, nous nous retrouvons à 19h30 à la salle des fêtes du stade de Kégué.
Et ce sera pour la clôture de vos 10 ans au Rotaract Club Lomé Zénith.
Oui.
Maintenant, le Rotaract Club même dont nous parlons, qu'est-ce que c'est?
Le Rotaract Club, ça regroupe des jeunes professionnels qui s'unissent pour faire des projets, pour élaborer des projets. Et l'élaboration de ces projets-là nécessite beaucoup de capacités. Ces capacités permettent aux autres...
Capacités physiques, intellectuelles ou financières?
Capacités physiques et surtout intellectuelles, parce qu'un projet doit être bien ficelé. Et ça répond à un certain nombre de besoins que nous remarquons, nous jeunes, étant donné qu'on bouge assez, on est au contact des populations, on voit leurs besoins élémentaires auxquels on répond à travers ces projets-là. Et ces projets-là nous apportent quoi? Ça nous apporte un développement du leadership. Pour quelqu'un qui est timide, qui ne sait en rien ce qu'on appelle un projet, dans le Rotary Club, il est mis dans des commissions pour pouvoir faire ces projets-là, pour pouvoir réaliser ces projets-là. Et de ces projets, il en tire le leadership.
Et vous êtes ouvert à toute bonne volonté qui veut vous, se joindre à vous, travailler avec vous, apprendre de et avec vous.
Oui, on est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans, sans distinction de sexe ni de race.
Merci à vous, Benoît Kenvi, pour vos 10 ans au Rotarat Club, Lomé Zénith, toutes ces belles actions que vous avez déjà lancées ou envisagées, notamment la campagne anti-tabac, c'est important parce que le tabac, c'est une forme de mort, n'est-ce pas?
Oui, moi, ça me désole quand je vois sur un paquet de cigarettes, on met juste le tabac dessus.
Oui, et pourtant les gens continuent à l'acheter avec leur argent.
Ils sortent assez d'argent pour le tabac et ils en finissent par dépenser assez pour se soigner.
C'est ça aussi la liberté avec dans toutes ces dimensions. Ensuite, cette action humanitaire aux côtés des jeunes de la brigade pour mineurs.
Oui, nous savons que ce sont des jeunes, ce sont nos jeunes frères qui sont en conflit avec la loi. Mais nous disons que c'est peut-être un manque de conscience, un manque peut-être d'éducation de base. Il peut arriver qu'après un certain nombre de temps à la brigade pour mineurs, ils intègrent aussi nos rangs. Et nous ne pouvons que les aider quand ils seront là-bas. Peut-être nos gestes envers eux vont changer leur vie, vont leur permettre de pouvoir aimer cette association et y adhérer.
Et je vois déjà d'anciens détenus qui vous rejoignent au Rotarat Club, Lomé Zénith ou d'autres Rotarat Club de Lomé pour continuer cette action humanitaire. C'est pour la survie de l'humanité.
C'est important.
Merci à vous, Benoît Kenvi. Vous avez nos encouragements à tous vos camarades du Rotarat Club Lomé Zénith.
Merci, Sas.
Ici avec Sylvestre Kokou Béni qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Tu me parais beau, mais je voudrais m'assurer que tu es en totale santé.
Quand on est béni, on est beau.
Dit paraît beau, hein, on n'a pas dit beau.
C'est la même chose.
Merci beaucoup et Sylvestre et nous tous, nous soyons à l'abri de l'hypertension artérielle. C'est ce numéro spécial que fait Santé Éducation. Gadiel Gameli, rebonjour.
Rebonjour, ça.
L'hypertension artérielle que vous qualifiez de tueur sournois, et vous, l'article rappelle bien que quand nous prenons notre tension artérielle, il est vivement souhaité que cette tension soit 12, 8 ou bien 120, 80, et cette tension doit se lire sous deux angles, n'est-ce pas, Gadiel?
Absolument. Mm-hmm. Donc, en tout cas, quand on va à l'hôpital pour faire ce tact, les soignants savent bien le faire et c'est à eux de vous dire exactement le rapport entre les deux chiffres si vous êtes hypertendu ou pas.
Merci. Donc, la tension est anormalement élevée, c'est ça, l'hypertension,
ouais,
dont le docteur D'Adamo dit que l'hypertension non traitée peut malheureusement ouvrir la voie à une foule de problèmes, notamment les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, les ischémiques, voire même d'autres attaques cardiaques.
Absolument, vous savez ça, aujourd'hui, il faut continuer par en parler parce que l'OMS dit que ce qui nourrit plus l'expansion de cette maladie dans les pays en voie de développement, c'est plus le manque d'information. On n'est pas informé, on n'est pas éduqué par rapport aux maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension. Dans plusieurs pays en Afrique, la prévalence va entre 25, 30, 35, voire 40. Et quand on sait les complications de l'hypertension artérielle, on voit que nous sommes quasiment des malades dans nos pays africains. Ajouté aux prévalences du diabète, par exemple, et tout ce que nous connaissons sur les maladies en Afrique. Donc, nous sommes une population totalement malade. Il faut faire vraiment attention par rapport à l'hypertension, qui est une maladie qui démarre sans aucun signe. Et souvent, les signes les plus visuels commencent quand la personne rentre dans les complications. D'où, il est important de faire le dépistage. Chacun doit prendre sa tension au moins une fois par trimestre.
C'est absolument une fois tous les trois mois.
Une fois tous les trois mois, si vous êtes sans, si vous n'avez pas la maladie. Mais pour ceux qui sont malades, ils n'ont qu'à suivre le conseil de leur médecin traitant. C'est absolument important.
En tout cas, ce bel article introductif parle de tout. Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Comment l'hypertension artérielle se manifeste-t-elle? Quels sont les facteurs de risque? Comment traiter l'hypertension? Comment se faire le diagnostic? Qui sont les personnes à risque? Tout ça là, les réponses se trouvent dans l'article à la page 3. Eh bien, au cas où on serait hypertendu et qu'on est placé sous médicament, on doit également lire l'article à la page 7 intitulé « Quand est-ce qu'il faut prendre les médicaments anti-hypertenseurs ?»
La prise des médicaments hypertenseurs, aujourd'hui, après un certain nombre d'études qui sont faites dans les pays occidentaux, il est dit que les médecins traitants doivent faire extrêmement attention parce que il y a des personnes qui font leur hypertension la nuit. Or, dans la plupart des cas, on conseille aux gens de prendre leurs médicaments au réveil, donc le matin. Donc, ceux qui font leur hypertension la nuit, cela peut, il peut se réveiller avec une catastrophe. D'où, il est important de savoir quand est-ce que le patient fait son hypertension dans la journée. Donc, c'est un article important que nous conseillons et aux traitants et puis à ceux qui sont des hypertendus.
Merci. L'hypertension, on lira l'article à la page 3 pour en découvrir tous les aspects. Si on est hypertendu, comment prendre ces médicaments? L'article à la page 7. Maintenant, pour nous tous, cet autre article, ces divers articles à la page 4 qui parlent notamment de l'origine héréditaire de l'hypertension artérielle. C'est pour dire, Gadiel, que la tension, l'hypertension peut être héréditaire.
Voilà, c'est un des facteurs de l'hypertension. Cela peut venir de la famille, si on peut le dire ainsi. Mm-hmm. Donc, c'est important que chacun, ce que nous avons mis dans cet article, fasse l'échelle de santé de sa famille. Quelles sont les maladies de mes parents? Quelles ont été les maladies de mes arrière-parents, mes arrière-grands-parents, quelque chose comme ça. Voilà, donc, il faut avoir les chefs de maladie dans la famille, ce qui va permettre à ceux qui sont aujourd'hui la nouvelle génération de rentrer dans les mesures préventives, parce que c'est important. On a fait un article ici, on est venu faire le commentaire que déjà à 45 ans, on peut commencer, on le dit, à sentir certaines maladies qui nous sont héréditaires. Donc, c'est absolument important, ce facteur de vraiment de
autrement dit, au-delà de l'hypertension, nous devrons avoir le courage de savoir de quelle maladie souffrent nos parents ou ont souffert nos parents et nos grands-parents. Ça nous permettrait de nous prévenir.
Absolument. Vous savez, il y a l'hypertension, il y a le diabète, il y a le cancer, donc voilà, il y a l'épilepsie, il y a plusieurs maladies, même la dépression. Toutes ces maladies, nous devons dresser cette échelle pour nous prévenir pour rentrer dans les mesures préventives.
Et dans la prévention, naturellement, Santé Éducation nous recommande l'activité physique pour tonifier notre santé cardiaque, absolument, diminuer le stress de manière durable ou encore trouver du temps de temps en temps pour faire une petite sieste et surveiller et garder un poids de santé.
Absolument.
Deux petits articles vraiment intéressants.
Oui, surtout le poids, hein, ça, si vous permettez, le poids. Aujourd'hui, en 2010, d'après une étude, quasiment 15% de Togolais sont en surpoids. Aujourd'hui, je suis sûr que ça va augmenter. Et le surpoids et l'obésité constituent des facteurs qui peuvent conduire à l'hypertension artérielle. D'où il est important que chacun ait ce qu'on appelle le poids santé. Et le poids santé, pour l'avoir, il faut surveiller son alimentation. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut bien dormir. Il faut avoir des idées bien claires. Il y a plusieurs conditions pour cela. Mais on peut y arriver. C'est absolument important parce qu'il y a des gens, c'est par rapport au poids qui peuvent devenir hyper tendus.
Tout comme on lira avec intérêt ces articles à la page 6 qui portent sur les aliments pour une bonne tension artérielle, de même que les remèdes naturels pour réguler la tension artérielle. Gadiel, on va finir avec une maladie pas moins handicapante. Il s'agit de la fistule obstétricale qui peut survenir par accident dans la vie d'une femme. Maladie terrible s'il en est. Heureusement, il y a un traitement. Et d'où cet appel, cette exhortation. Fistule obstétricale, tous en action pour son éradication.
Oui, c'est un cri que lance le système des Nations Unies, notamment par le touchement de l'UNEPIED, pour d'abord faire connaître encore cette maladie chez les femmes. L'une des causes, c'est l'accouchement de certaines femmes dans des conditions un peu pénibles, peut-être pas à l'hôpital, peut-être pas avec un traitant spécialisé. Donc, ça peut arriver. La fissure, c'est une blessure que la femme peut avoir. Et cela a des conséquences parce que très souvent, la femme ne contrôle plus ses urines et elle est stigmatisée dans sa communauté. En tout cas, l'UNEPIED fait un effort louable dans ce domaine avec le ministère de la Santé pour la prise en charge de ces femmes. C'est un article important. Les cibles, ce sont des femmes dans les milieux un peu reculés. Des femmes de conditions pauvres, donc faisons passer le message, c'est absolument important. Et dire que chaque femme enceinte doit accoucher dans des conditions normales, dans un hôpital bien équipé, avec la présence des spécialistes. Voilà.
Et même pour les bourses les plus minces, le gouvernement a mis en place le programme OESU,
oui.
Qui est censé prendre en charge la femme enceinte depuis les premiers soins prénataux jusqu'à au moins un an après l'accouchement.
Absolument.
Ça veut dire que si le gouvernement respecte sa parole, toutes les femmes togolaises enceintes devraient bénéficier de ce programme OESU. Maintenant, ceux qui ont beaucoup plus de zéros à côté de leur 1 peuvent choisir leur clinique. Merci Gaziel, mais tu restes à nos côtés à partir de 12h. Si un auditeur appelait le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75 et qu'une question portait sur la santé, vaut mieux que tu sois là pour répondre pendant ce temps avec les autres. Mais toi aussi, nous reparcourons le bal des congrès des partis politiques, c'est la saison avec ces divers articles. Quand le triangle des enjeux écrit opposition togolaise, l'heure des congrès tous azimuts, nécessité ou contrainte, pour dire que tous ces congrès auxquels nous assistons, c'est pas seulement par plaisir, certains partis. En fait, tous les partis politiques s'y voient un peu contraints parce que, comme le rappelle Sylvestre, c'est pour se conformer aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques qui a été révisée il y a un an et pour lesquelles les partis politiques déjà existants avaient un an jusqu'à hier, 30 mai 2023, pour s'y conformer.
Oui, en effet, je crois que la loi a été votée le 24 mai et promulguée le 30.
2022.
Et promulguée le 30, donc, si vous prenez la disposition, les dispositions finales, il est dit transitoire, il est dit dans l'article 27, un nouveau, que tous les partis qui existent, donc à la publication de la loi au journal officiel, ont un an pour se conformer. Donc, nous sommes donc à la date butoir et vous verrez que le week-end dernier, surtout le samedi et dimanche, nous avons assisté à pas d'une dizaine de congrès.
Mm-hmm.
Ça veut dire que nous avons beaucoup de partis politiques avant au Togo. Pas d'une dizaine de congrès. Il y a les démocrates qui ont ouvert le bal dans la matinée du samedi.
Les démocrates, c'est le parti de Rabia Nicodème.
De Rabia Nicodème, donc reconduit, hein, reconduit à la tête du parti après modification des tests. Et après, il y a Adrien Beliki, la CPP, qui est également reconduit avec un bureau de 15 membres et tout. Après, il y a Aimé Gougué, le professeur Aimé Gougué qui est là, et qui lui précise, hein, il précise que c'est son dernier mandat, hein, à la tête donc, de Hadi. Et après, nous avons aussi le CAR qui a également tenu.
Non, nous allons revenir sur le CAR, hein, voilà, mais rappelons également les partis comme le Parti des démocrates socialistes africains, le DSA, de Sambiri.
Il y a le MCD de Tchassona Traoré.
Oui, MCD de Tchassona Traoré. Il y a également le Bloc d'Action pour le Changement.
Le BAC qu'il a fait le
de samedi. Thomas Ntchoupoué. Voilà. Et puis, on continue. Il y a aussi. Oui, Adrien Beliki à côté de la CPP, MCD de Tchassona. Donc, une dizaine, hein, de partis, oui, qui ont pu tenir leur congrès entre samedi et dimanche. Joachim Loco, qui se sont ajoutés aux autres qui ont commencé un peu plus tôt.
Oui, les autres ont commencé un peu plus tôt, mais moi je, la une de Dounia aujourd'hui, c'est nous avons eu à caricaturer. Et le conflit de leadership au sein des partis de l'opposition. Mm-hmm. Et vous savez que dans presque ou bien au sein de tous les états-majors des partis de l'opposition, ce n'est pas la sérénité. Que ce soit au niveau du CAR, ce n'est pas la sérénité. Il y a certains qui revendiquent la légitimité en Iran, en fait des déclarations au domicile de Maître Aguibo. Que ce soit au sein de la DMK, qui s'est transformée en DMP, que ce soit plutôt au sein de l'ANC aussi, ce n'est pas de la sérénité. Il y a certains militants qui ont été exclus. Et donc, c'est tout ce méli-mélo qui caractérise les congrès qui sont organisés. L'opposition est en train de confondre l'ombre à la proie. Et à l'approche des élections législatives, pendant ce temps, et que la proie, c'est-à-dire UNIR, est en train de faire un travail de fourmi sur le terrain. Voilà ainsi caricaturé ce qui se passe au sein de l'opposition. Alors que cette opposition est très entendue après le boycott des élections de 2018. On veut juger le poids réel de l'opposition aux élections régionales et législatives à venir qui sont attendues probablement à la fin de cette année. Et voilà cette opposition qui s'offre en spectacle. Et bon, au lieu de fourbir ses armes et de combattre le principal adversaire, c'est des gens qui sont en train de faire des guerres internes, qui se combattent et qui se mangent entre eux.
Estelle, tous ces congrès sont tenus presque dans tous ces congrès, les présidents sortants ont été reconduits, hein, sauf le cas, parce que le président Aguibo étant décédé, il fallait lui trouver un nouveau président. C'est ce qui a été fait le samedi 27 avec Date Yao élu, et on verra si la polémique s'est éteinte. Mais non. Il y a un parti qui finalement a fait Goïta, il s'agit de l'Union des Forces de Changement, l'UFC. Congrès convoqué le 20 mai. Ça n'a pas pu tenir pour ce que tu sais déjà. Des gens ont annoncé que ce congrès aurait dû être repris le week-end dernier. Il n'en a rien été. Alors que le 30 mai, qui était la date butoir donnée aux partis politiques de se conformer à la charte du parti, le 30 mai est passé. Peut-être qu'il faudra regarder dans une boule pour savoir si l'UFC continuera à exister et à fonctionner comme parti politique.
Mais j'avoue que je ne comprends plus rien de ce qui se passe au sein de l'UFC. J'avoue. Les informations qui se qui se font entendre laissent dire autre chose, mais à la date fixée, c'est autre chose qu'on voit. Les porteurs des messages, on ne sait plus qui mandate qui, on ne sait. Sincèrement, moi personnellement, je ne me retrouve pas. Et ce qui est déploré, c'est que tout ça se passe du vivant, du patriarche même de l'UFC, si je peux me le permettre ainsi, et qu'ils ne puissent pas avoir cette autorité ou cette souveraineté pour siffler le coup de sifflet final, permettez-moi la répétition, de cette pagaille entre griffes au sein du parti. C'est vraiment déplorable. Puis il y avait, comme tu viens de le dire, le congrès avait été annoncé. Et ça s'est terminé à queue de poisson. Ça n'a même pas tenu, disons. Ça n'a même pas été ouvert. Le terrain a été vidé sous présentation de certains papiers signés ou non, les signatures reconnues ou non. Tout un méli-mélo. Et ensuite, on a assez sur ton plateau ici. On est venu annoncer que ça a été reporté. Tout est signé désormais. Dans une semaine, ça va être fait. À la date, on a cherché les tenants en vain, les aboutissants en vain. On ne comprend plus rien. Mais on attendait à ce que naturellement le président du parti prenne parole ou fasse une sortie pour situer en fait les responsabilités, pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce que nous sommes en train de faire, d'ici à telle date, voilà l'échéance pour mettre fin à tout ça, mais bon, rien. Donc nous sommes là, nous regardons, nous verrons bien ce que ça va donner, mais c'est vraiment déplorable pour un parti aussi historique dans l'histoire politique togolaise.
Je rappelle juste que au terme de la loi important révision de la charte des partis politiques, tous les partis politiques avaient l'obligation de se conformer aux dispositions, notamment jusqu'à hier 30 mai 2023, chaque parti politique travaillant au Togo devrait justifier avoir tenu un congrès ou des assises nationales sur les 5 dernières années. Les militants de chaque parti devra regarder si son parti a tenu un congrès entre 2018 et 2023, dont le 30 mai a échu hier. Le cas s'en est sorti finalement avec une forme de pirouette en tenant son congrès repris le 27 mai dernier avec Yao Daté porté à la tête de ce bureau. Mais pendant que Daté et les siens étaient à leur congrès à la Mugette, d'autres militants du cas qui se revendiquaient également historiques s'étaient retrouvés à la maison de Maître Agboibo pour autre chose. Alors, l'élection de Yao Daté, est-ce le retour de la sérénité au sein du CAR, ou bien, comme l'écrit le journal La Lanterne, est-ce que Jean Kissi et ses partisans pourraient être également tentés de créer un nouveau parti, soit le CAR bis, ou bien un autre parti carrément? Abassi Saka, tu étais quand même assez proche de Maître Agboibo de son vivant. Est-ce que tu peux regarder un peu dans l'eau, comme certains protocolistes savent le faire, pour nous dire ce que la suite du CAR donne?
La suite du CAR, on dirait que nous avons tenté de voir que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du CAR est déplorable. C'est très déplorable que le grand parti qui a fait la pluie, le beau temps dans les années 90, puisque on a vu comment ça a été né. Agboibo était présent du front des associations du renouveau.
Phare.
Et c'est lorsqu'on a créé, on a fait l'achat des partis politiques, que le phare s'est transformé en CAR.
Le phare était dissous. Et les membres anciennement du phare, chacun pouvait voler
de ses ailes,
soit créer un parti politique ou bien une association.
Oui, et maintenant, c'est à part Agboibo que l'amnistie a été signée par Fouya Dema pour que tous les exilés politiques puissent revenir pour assister à la conférence nationale souveraine. Et c'est ce parti aujourd'hui qui a fait le beau temps de la politique togolaise qui se retrouve en difficulté. Est-ce le fait que Maître Agboibo n'a pas su céder la main très vite, parce que quand il a cédé la main à Maître Apevon, il l'a reprise ensuite. est-ce qu'il n'y a pas une préparation concrète au niveau réel, au niveau du cas? Parce que tous ceux-là qui sont en train de se battre, tous se réclament de l'aboébéisme.
De la philosophie politique de mettre à Bobo,
la méthode. Et c'est eux qui se battent. Pourquoi cela ne peut pas s'entendre et s'asseoir? Ce qui veut dire que c'est Maître Agbogbo qui était là, qui avait la main sur ses divisions internes au parti. Parce que, tel que je vois, lorsque ça se passe avec Agbo et Kissi, Kissi était le secrétaire général du CAR. Agbo est le secrétaire général adjoint du CAR sous Maître Agbogbo. Aujourd'hui, c'est les deux qui se tiraillent et qui ne s'entendent pas. Daté également était le directeur de cabinet du CAR, Kissi, assistant personnel de Maître Agbogbo à la primature. Et les deux, tous, ne peuvent pas s'asseoir pour dire que nous allons taire nos divergences, nous avons un CAR. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que c'est ceux qui ont organisé le congrès, parce qu'ils ont envoyé une lettre d'information au ministre de l'administration territoriale pour organiser un congrès quelque part, et on leur a envoyé même les forces de sécurité pour comme ça se passe à tout moment, et ils disent qu'ils veulent sauver le fait que le cas ne tombe pas en désuétude après que
la date d'hier 2023.
Donc il fallait sauver, parce que la transition, on a vu ceux-là qui sont les tenants de la transition, ils sont allés dans la maison de Maître Agbogbo pour s'asseoir et parler. Est-ce que c'est ça qui est légitime? Parce qu'on a tenu une réunion dans la maison de Maître Agbogbo qui fait que vous êtes légitime. Aujourd'hui,
alors il faut rappeler que la maison d'Agbogbo n'est pas le siège du CAR.
Ce n'est pas le siège du CAR. Il y a le siège du CAR quelque part. La maison n'est pas. Ça, c'est le domicile privé. Un domicile privé, on va tenir une réunion d'un parti qui dit transition. On parle de la transition dans cette maison. Alors que d'autres ont sollicité un hôtel, la Migette, ils ont organisé. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ceux-là qui ont organisé le congrès, Daté et son groupe, c'est eux qui seront reconnus. Parce que s'il y a une activité au niveau de l'État, s'il y a quelque chose à faire au niveau de l'État, du gouvernement, c'est ceux-là qui sont légitimes, qui ont organisé le congrès, qui seront appelés. Je comprends pourquoi, depuis quelque temps, lorsqu'on avait le dialogue togolais, le CNAP, le CAR s'est retiré, on n'arrivait pas à envoyer, parce qu'il y a ce problème interne. Mm-hmm. On ne sait pas qui va aller représenter le CAR à ce dialogue-là. Mm-hmm. Et on nous fait savoir que le CAR ne participe pas. Si le CAR ne participe pas, c'est que il n'y a personne. Il y a le leadership qui on va envoyer, il va représenter le CAR. C'est au moment de ce congrès-là que nous avons constaté que c'est ça qui se passait, que le CAR, parce qu'on ne peut pas comprendre Agbogbo qui aime le dialogue, qui met dialogue et pression, refuse d'aller, il n'a jamais refusé même d'aller à un dialogue, il a même conduit des dialogues ici qui ont abouti à la signature des accords. Et aujourd'hui, on va dire que c'est le CAR qui refuse d'aller à un dialogue.
Eh bien, du CAR à tous les partis, il y a cette la manchette de Dounia qui dit tout. Hein, à l'approche des échéances électorales, hein, la caricature illustre bien l'opposition contre l'opposition. Il y a le CAR branche Daté qui s'oppose au CAR branche Kissi. Il y a l'UFC tendance Ohil qui se bat avec UFC tendance Alipuy. Il y a l'ANC Fabre. Il y a l'ANC Uruakpo, Tchanyaou. On peut multiplier. Il y a la DMK contre la DNP. Alors que Sylvestre Béni, tout ça là, pendant que nous sommes à quelques temps des prochaines élections régionales et législatives.
Oui, il faut dire qu'avec l'opposition est en souffrance. C'est un constat, c'est un fait. Mais bon, avant donc de continuer, je voulais en fait et préciser que le CAR était quand même au SNAP avec le vice-président Kolani, puisqu'il était le vice-président de Maître Agbogbo à son décès. Donc ils étaient au SNAP, mais ils avaient posé un certain nombre de conditions.
Et ils s'étaient retirés après.
Alors, oui, lorsque vous voyez aujourd'hui l'opposition, je crois que l'éternel problème, c'est le fait que le président n'a pas un dauphin sérieux, incapable donc de le remplacer en cas donc d'empêchement temporaire définitif ou de décès. Et c'est ce qui fait que nous voyons tout ce méli-mélo, tout cet embrouillamini avec au sein de l'opposition. Oui, le CAR, aujourd'hui, s'il faut parler du CAR, on ne parlera que de la branche datée, puisque c'est l'autorité qui a envoyé des éléments donc du pays pour assurer leur sécurité. Ils ont tenu leur congrès. C'est vrai que aujourd'hui nous avons mis qu'il est admissible parce que
daté admissible à la tête du cas
et puis Javier et les autres sont déclarés admis. Pourquoi nous disons qu'il est admissible? Parce que c'est vrai qu'il est président, mais il doit se batailler pour avoir une présidence tranquille et réussie, puisque de l'autre côté ses frères, ses camarades de lutte le traitent donc d'imposteur et tout, avec tout ce qui va avec. Au niveau de l'ANC, est-ce qu'on peut parler donc de la branche Uruapo, puisque Uruapo est exclu? Donc je ne pense pas qu'on peut encore coller l'étiquette Uruapo et l'étiquette ANC à Uruapo, puisqu'il a déjà, comme le disait le ministre Bojona à l'époque, il a déjà sa huit. Donc lui-même, il a le front. Attends, le FPP ou
FPL.
Bon, j'ai oublié un peu le il a déjà quand même sa formation. Et donc, il fait même des tournées ici et là. Donc, je crois que pour lui, l'ANC, c'est une ancienne histoire. Mais l'UFC, c'est aussi l'UFC qui étonne, parce que il y a un problème donc de génération au niveau de l'UFC. Il y a Ohin qui a connu donc les beaux jours et les jours douloureux avec Jikris Olympio. Aujourd'hui, c'est la branche Alipu qui revendique donc la paternité de Olympio. Il a même traité Alipu, il a même traité de vieux politicien, de vieux politicien, et qu'il doit faire tout donc pour les mettre en retraite. Donc voilà, c'est un problème, c'est une crise de génération. Malheureusement, c'est l'opposition. On n'arrive pas, ils n'arrivent toujours pas à se comprendre, si bien que on a toute une panoplie donc de l'opposition. Mais lorsque vous voyez leur idéologie, pratiquement c'est presque les mêmes. Les socialistes,
on a du mal à comprendre idéologiquement ce qui divise.
Ce qui divise, puisque lorsque vous voyez, ils sont presque socialistes et tout ça. Mais bon je ne comprends pas où il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Peut-être que lorsque tu es président d'un parti politique, aujourd'hui, qui est presque devenu un fonds de commerce, comme les églises qu'on a créé un peu partout, peut-être que lorsque tu es là, il y a quand même des sous-dossiers.
Bientôt les élections, mais pendant ce temps, c'est le recensement électoral qui se sont cours. Le recensement électoral vient se dérouler dans la zone 2, pratiquement sans polémique dans les médias. On peut supposer que ça s'est bien passé. Maintenant, la CENI vient de mettre le cap sur la zone 3. Le nord du Togo, comme l'écrit Dunia Le Monde, la CENI qui met le cap sur la zone 3, pendant que la Lanterne, lui aussi, écrit que le recensement électoral dans la zone 3 débute le lundi 5 juin prochain. The Guardian, dont nous saluons le retour dans les kiosques, prend acte de ce qu'il appelle la grande mobilisation lors du recensement 2023 au Togo. Et The Guardian se demande si nous tendons vers un vote sanction prochainement. Mais l'analyse continue et écrit déjà affluence inédite au recensement 2023 à la veille des législatives. Et pour The Guardian, la page des Abbas Kaboua, Jerry Tama, Sena Alipui et Innocent Kagbara bientôt tournée. C'est une question, on peut mettre point d'interrogation, on peut mettre point aussi. Mais la Lanterne ne voit pas la chose de cette façon, en se basant sur ce que nous venons de dire tantôt, sur les problèmes au sein de l'opposition, au sein des partis. La Lanterne écrit que l'opposition togolaise est plutôt en perte de vitesse à la veille de ces élections. Estelle, nous n'allons pas jouer aux magiciens. Nous parlons juste de ce que nous constatons ici et là quand les campagnes électorales, aussi bien des législatives que des régionales, vont s'enclencher. Nous verrons comment ces partis, seuls ou en groupe, vont se débrouiller. Peut-être même que ces partis dont nous parlons aujourd'hui en crise pourraient nous surprendre prochainement.
C'est ce qu'on souhaite. L'essentiel, c'est de s'entendre pour atteindre les objectifs. Puisque aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que l'opposition s'agite pendant ce temps. Le pouvoir est tranquille. Hein? Oui, il ne se dérange même pas. Mais il travaille quand même sur le terrain, hein, sans qu'on le sache. Il est en train de poser ses pions. Et au moment opportun, bon, on viendra dire le pouvoir a fait ceci pendant que l'opposition était en train de s'entre-déchirer et tout cela. Ce sont eux-mêmes qui balisent actuellement le terrain au pouvoir, sans le savoir peut-être. Mais comme tu le dis, on n'est pas des prophètes. On ne va pas mettre la charrue avant le bœuf. Au moment opportun, on avisera.
Merci.
Ils sont à l'intérieur.
Oui.
On aurait quand même souhaité qu'au sein des partis de l'opposition, qu'il y ait cette sérénité pour que le débat soit un débat de haut niveau, parce que ces législatives sont, je viens de le dire, sont très attendues après les boycotts des principaux partis de l'opposition en fin 2018. Donc, ils sont très attendus. Donc, on aurait quand même aimé qu'il y ait la sérénité au sein de tous les partis de l'opposition pour que l'élection soit véritablement une élection de débat, pour qu'on puisse savoir, comme le disent nos amis les militaires, qui est qui.
Il y aura une élection correcte à débat. Parce que cette élection, ceux qui s'agitent, on sait comment ça se passe, mais les gens sont en train de travailler sur le terrain.
Même ils sont en train de se tirer des balles dans le pied.
On peut travailler sur le terrain.
Mm-hmm. Oui, c'est ce que je voulais dire, en fait. Oui. Et ce n'est pas parce que les gens s'offrent en spectacle et tout ça qu'ils ne travaillent pas.
Ils travaillent.
Il y a beaucoup qui travaillent. J'ai appris que la DMP, oui. Hein, la DMP a quand même des cellules qui sillonnent depuis plus de 3 semaines. Hein, toute l'étendue du territoire national pour aller échanger avec les populations et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Maintenant, bon, unir aussi, ce n'est pas parce que les autres sont en souffrance qu'on peut dire qu'unir aussi à tout le boulevard. Vous savez, il y a aussi un vote historique. Le Togo, c'est presque un vote historique. On sait qui on va voter. Donc, il y a ces éléments-là aussi. Donc, Ce n'est pas tout gagné aussi pour unir, quoi.
Ne pas tendre la brèche, en fait.
À des moments beaucoup plus critiques dans l'histoire, on avait parlé justement de ces votes sanctions qui se sont plutôt retournés en vote plébiscite. Par exemple, aux législatives 2018 et même au local 2019, beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs pensaient que la rue allait sanctionner Unir, alors que Unir a plutôt remporté ses élections haut la main, avec même la présidentielle de février 2020.
Non, pour 2018, l'opposition a appelé au boycott. Donc, ça va de soi que quand il n'y a personne, tu es seul donc à table, donc tu manges tout. C'est ce que Unir a fait, il a tout ramassé.
Pour
2019, vous avez vu que c'est pas le jour des coalitions que certains sont aujourd'hui maires de certaines communes. Hein, du pas donc de l'opposition. C'est pas le jeu des alliances aujourd'hui que l'opposition est arrivée donc à avoir beaucoup de conseillers et de maires. Donc je l'ai dit, c'est pas tout béni aussi pour Unir. Hein, lorsqu'on sait que Unir
tout le souhait c'est que l'opposition retrouve la sérénité.
Si c'était tout béni pour Unir n'allait pas descendre sur le terrain. Il y a les cadres de Unir qui travaillent dans toutes les préfectures, dans toutes les localités.
Parce que maintenant, c'est chaud. Ils seront plus seuls.
Ouais, c'est ça indiqué ces élections-là.
La nouveauté, la nouveauté, c'est que beaucoup de partis, pas seulement Unir, beaucoup de partis ont mis à profit l'occasion de la sensibilisation au recensement pour aller en fait déjà
faire plus de
Je ne serais pas fâché.
Je ne sais pas. La dernière fois, je ne sais pas si c'est un lapsus, au congrès donc de la CPP, il y a le président du MRC, Abbas Kaboua, qui disait que nous avons encore 5 mois devant nous et après on va céder. je sais pas si il va partir ou il va. C'est une prémonition, c'est quoi? Bon, est-ce une prémonition? Bon, on verra.
Merci beaucoup. Autre article divers, et ça nous intéresse au quotidien. Abbas Issaka, Le Magnan Libéré nous parle de cette rencontre qui se tient chez nous ici à Lomé, qui porte sur la problématique de la production et sécurisation des engrais, des acteurs venus de l'Ouest africain en réflexion chez nous ici. Il s'agit de faire de l'agriculture un secteur vraiment productif.
Oui, il faut faire l'agriculture un secteur productif. Et cette grande réunion, on l'appelle votre réunion, grande importance, qui réunit même les... C'est sous la bannière de la CEDEAO, de la Banque mondiale, réunit les participants de l'Afrique de l'Ouest. Même les chefs d'État africains sont actuellement dans le pays pour... parce que ça doit aboutir à la signature d'une feuille de route sur l'engrais et sur le sol. Vous savez que le sol est en dégradation continue alors qu'on est en train de chercher à promouvoir l'agriculture dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc si on prend ces décisions, c'est que les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel seront obligés de suivre cette feuille de route-là pour sauver le sol africain et les engrais qui sont devenus un problème dans tous les pays, dans certains pays où il y a des engrais chimiques qui sont vendus et ça tue très souvent les sols. Donc tout ceci là est en train
de... C'est plutôt de faire la promotion des engrais organiques. Et comme notre pays a déjà dressé une carte de fertilité des sols, on saura maintenant quel type d'engrais utiliser sur quelle terre pour avoir un rendement amélioré. Et nous aurons des rendements beaucoup plus améliorés encore pour le soja. Le soja qui est vraiment le produit vedette ces dernières années. Sauf que les acteurs de la filière ont quelques raisons d'être en colère. En tout cas, c'est ce que la manchette écrit. Les acteurs de la filière soja en colère au siège de leur structure le mardi dernier.
Oui, c'était hier, donc...
Hier mardi,
ces acteurs sont venus donc de toute l'étendue du territoire national pour au siège donc de l'interprofession, parce que, vous savez, c'est une filière qui est en souffrance depuis quelques mois.
Le problème réside où? Puisque la production est en augmentation et en croissance, oui. Quel est le problème que rencontre les acteurs qui sont plutôt dans la commercialisation?
Le problème, je crois, si on se réfère à ce que beaucoup disent, il y a d'abord cette lenteur administrative en ce qui concerne donc l'obtention de l'agrément. Normalement, ces acteurs doivent obtenir l'agrément beaucoup plus tôt. Mais c'est
avoir l'agrément pour pouvoir exporter le soja.
Ça a véritablement traîné. Or, c'est après l'agrément que des contrats sont signés avec les exportateurs et tout, et le produit coule, comme cela se doit. Mais ils ont remarqué, pour cette campagne, c'est-à-dire la campagne 2022-2023, on a remarqué qu'au niveau de l'agrément, ça a beaucoup traîné, puisque généralement, c'est les deux ministères, le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture, qui donnent le là, qui donnent quand même ce précieux sésame-là. Mais ça a un peu traîné, si bien que tout est parti... Et à volo, les acteurs ne comprennent pratiquement plus rien. Et puis, ils s'en prennent aussi à la PIA, la plateforme industrielle d'Atleticopé, comme étant une plateforme qui, selon leur terme, qui sert un peu la pagaille sur le terrain, parce que la PIA étant partenaire, la PIA qui doit prendre un certain nombre donc, de semences et tout. Mais cela ne se fait pas et tout. Donc, il y a un véritable problème. Par exemple, hier, nous avons échangé avec une dame qui est venue donc, de Niamasila, qui a quitté Niamasila pour arriver à Lomé, juste pour comprendre, parce qu'elle était au bord des larmes hier, parce qu'elle disait que dans notre pays, les femmes n'ont pas accès à la terre. Donc, elles sont obligées donc, de louer la terre à 25 000 francs. Pour faire donc la production.
25 000 francs l'année, la saison.
Oui, pour faire donc les productions.
Quelle parcelle de terre d'avoir aussi montant.
Il faut voir, pour faire les productions. Mais après, elles ont fait des prêts au niveau donc des microfinances et elles ont des produits maintenant, et de faute donc, pour certains, faute d'agrément, elle n'arrive pas à couler
autrement
le produit.
Autrement dit, donc, les producteurs, surtout les commerçants, se retrouvent avec des quantités de soja
des
sur
quantités.
Les bras.
Il semble, on parlait de 80 000 tonnes.
Oui, il semble que la politique plutôt consisterait à réserver un pourcentage de notre soja pour la transformation locale au sein de la plateforme à Déticopé, c'est ça,
justement.
Non
justement. Et hier, il y a beaucoup qui doutent d'ailleurs que cette transformation se fasse sur place, parce que si c'est vrai, ils disent que normalement, ils ne devaient même pas avoir de stock chez eux. Hein, ils ont encore 80 000 tonnes qui sont là sous leurs bras. Les microfinances qui sont les agents de microfinances, ils ne dorment pas.
Je crois que dans cette affaire-là, le ministre Bebeni de l'Agriculture et son collègue ADG du commerce ont le devoir de sortir pour situer l'opinion, éclairer les acteurs de la filière.
Effectivement, les technicien de ces deux ministères-là doivent sortir pour éclairer l'opinion par rapport à ce qui se passe.
Pour dire exactement là où
se trouve le problème. Parce qu'on ne peut pas, après avoir suivi les forums qui sont derrière avec les paysans, on se retrouve aujourd'hui avec cette situation sous le bras. Le ministère de l'Agriculture, surtout, doit intervenir. Hier, c'est le ministre lui-même qui a lancé les travaux de cette grande réunion-là à l'hôtel de février.
Pour les engrais.
Pour les engrais. Uh-huh. Donc, aujourd'hui, il doit prendre leur courage à deux mains. S'il ne peut pas venir, désigner des techniciens qui viendront s'expliquer par rapport à cette histoire de soja.
Oui.
Parce qu'on dit le soja, actuellement, tout l'ensemble des agriculteurs, la presse totalité des agriculteurs, sont jetés sur le soja, sur la culture du soja, parce qu'ils disent que ça donne de l'argent.
Mm-hmm.
Si aujourd'hui les gens cultivent et qu'il y a des tonnes qui restent encore quelque part, qui n'arrivent pas à écouler, qu'on n'arrive même pas à signer les agréments, et qu'est-ce qui se passe? Je crois que les deux ministères doivent venir
attention,
expliquer aux gens.
Ces cargaisons de soja que les gens ont sur les bras, nous connaissons nos conditions de stockage.
Oui,
si la PIA le leur achète à temps, ou bien on leur accorde l'agrément pour vendre
à l'extérieur du pays.
Les produits risqueraient de pourrir. Alors que les femmes disent qu'elles ont,
elles ont fait des prêts, elles se sont endettées.
Encore que le gouvernement avait fixé également un quota, je crois, 300 000 tonnes pour cette campagne. Mais les gars sont déjà à 80 000 tonnes. Mais vous voyez que si on aidait véritablement la filière, le soja est très prisé, notre soja est très prisé à l'international.
Si Antoine Bebeni ou Kodjo Adeje, s'ils cherchent un canal pour s'adresser aux leurs, au club de la presse, nous sommes disposés, n'est-ce pas, tout comme les colonnes de vos organes.
Il faut
que les deux ministres là sortent pour éclairer l'opinion. Qu'est-ce qui se passe exactement au sein de la filière soja? Quelles solutions ils envisagent pour que la production reparte de plus belle? Il est midi passé de 2 minutes. Nous suspendons nos échanges pendant que Michel Vitogbe va adresser les clins d'œil de Canal FM à nos partenaires, et puis nous renouons avec les auditeurs. 93.5. Le 22-21-33-74, le 91-36-63-75, pour recueillir vos commentaires, vos questions. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet exposé aujourd'hui. Premier auditeur, bonjour.
Bonjour, monsieur Sassou.
Oui.
Je vous appelle par rapport à l'intervention de votre collègue.
Oui.
Qui a parlé de la prise de la médicament de l'hypertension.
Oui, oui.
Moi, je suis un hypertendu. J'ai l'habitude de prendre un médicament tôt le matin. Mais dans son intervention, c'est comme il a voulu signaler que c'est mieux de prendre ça la nuit. Donc, j'aimerais savoir, il faut prendre ça la nuit dès le matin.
Ok.
Ça, c'est une question.
Merci pour votre appel. C'est monsieur, s'il vous plaît?
Emmanuel Lawson.
Emmanuel Lawson. Très bien. Je passe la parole à Gadiel, qui va bien préciser le fond de sa pensée. Gadiel?
Je ne peux pas le dire, s'il doit prendre ça le matin ou la nuit. C'est une étude qui a été faite sur le plan international qui s'adresse plus aux médecins traitants de mieux savoir le moment où les patients font réellement.
Autrement dit, c'est le médecin, qui doit indiquer à son patient
Absolument. Le
moment approprié de prendre les produits antitenseurs.
Tout à fait.
Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Lawson. Nous prenons le suivant. Bonjour.
Bonjour, Saf Gaou.
Bonjour, monsieur.
C'est Richard depuis le Danemark.
C'est le Togolo danois ou bien le... Enfin, Richard depuis le Danemark, je préfère ça.
Depuis le Danemark, depuis Copenhague.
Oui, nous écoutons, Richard.
Oui, j'aimerais poser une question au journaliste de la santé.
Oui.
Gabriel. Il vient de dire quelque chose qui est choquant. Il dit plus de 30% de la population serait risquée de AVC.
Non, à l'hypertension artérielle.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Donc il veut dire que le nombre est plus élevé que les. Excusez-moi, les gens qui ont le virus, le VIH.
Le VIH. Ok, Richard, je vais passer la parole bientôt à Gadiel, qui va également faire la précision.
Oui. Et puis, allô.
Oui.
Allô. Oui. Mais il sait que nous, les Africains, nous n'avons pas cette tradition d'aller se consulter périodiquement à l'hôpital.
Oui.
Ce n'est pas de notre tradition. Comment l'on pourrait... Parce que moi-même qui suis ici, je vous dis que je ne suis jamais allé à l'hôpital.
Ah bon?
Et ce qu'il vient de dire, c'est choquant.
Bon, en quoi c'est choquant? En tout cas, je vais lui passer la parole. Il va repréciser.
C'est tout comme vous demandez à quelqu'un de signer son testament avant de mourir.
Non.
C'est comme quand
Richard, s'il vous plaît, je ne vois pas en quoi ce que Gadiel a dit est choquant.
Mais je vais lui passer la parole.
C'est très bon,
mais je ne sais pas de quelle habitude, comment nous allons. Quelle éducation nous aurons à apprendre à aller à l'hôpital.
Ah ah, ok.
Ce qu'il dit, c'est très bien, oui.
Ok, ok. Merci Richard. Mais y a-t-il un auditeur plutôt alarmant? Ok, Gadiel, pour répondre à Richard rapidement.
Oui, tout à fait. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est alarmant. Chez lui, c'est choquant. C'est une réalité. Alors, 30,5% de Togolais sont des hypertendus. C'est un chiffre du ministère de la Santé. Donc, voilà, c'est ça. Donc, chacun doit prendre ça comme cela et comprendre que l'hypertension artérielle est une maladie sérieuse au Togo. Nous sommes dans une situation très critique et il va falloir que tout le monde prenne conscience de la maladie.
Donc, commencez par développer la culture d'aller nous faire prendre assez régulièrement la tension.
Voilà, le dépistage précoce sauve la vie. Donc, prendre la tension, comme on l'a dit, au minimum une fois tous les trois mois.
Merci. Ça peut sauver une vie. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
S'il vous plaît, c'est Bruno.
Bruno, depuis?
Depuis Carrefour Radio, Lomère, TVT.
Eh bien. Okay. Bruno, nous vous écoutons.
D'accord. Je voulais parler de le problème qui se passe au niveau du car là.
Mm-hmm.
Bon, il s'est fait que c'est comme le car avait fait une réunion qui est accouchée à une transition de 2 ans.
Mm-hmm.
Et dans ce bureau, celui qui est le président de cette transition, ou bien du bureau provisoire, fait partie de ceux qui ont signé le document pour la transition de 2 ans. Et par après, subitement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, il fait partie des 4 personnes qui ont organisé le congrès la fois dernière pour élire un bureau,
oui.
Soi-disant un bureau reconnu.
Oui.
Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que leur test, que dit le test du cas 1? De 2, est-ce que ils peuvent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas participé à ce congrès la fois dernière là, ils peuvent porter plainte contre le ministère si le ministère arrive à reconnaître ce congrès qu'ils avaient fait le samedi dernier. Mm-hmm. Est-ce qu'ils peuvent porter plainte contre le ministère? Et où? À la Cour constitutionnelle, mais où?
Eh bien, l'ami Bruno,
oui?
Je vous prie de prendre votre mal en patience. C'est un sujet que nous allons inscrire au plateau du Club La Presse demain jeudi.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Je vous en prie, l'ami Bruno. L'auditeur suivant?
Allô?
Oui, bonjour. Et si?
Voilà. Je dis bonjour à Tchernadi que j'appellerai bientôt.
Mm-hmm.
Et puis, le stress donne beaucoup de maladies chroniques qu'on a dans le pays, quoi.
Oui.
Tension, les reins, le cancer, tout le reste. Sans structure adéquate. Sans structure adéquate, quoi. Le stress donne ça. Vous avez parlé de l'opposition qui serait en perte de vitesse, l'opposition qui a boycotté des élections, l'opposition qui a marché depuis 90 et tout le reste, c'est juste pour faire fléchir le régime et avoir des réformes démocratiques. Ce sont des formes de stratégie quoi, politique. Faut pas trop les blâmer. Eux, ils essaient quelque chose pour voir si l'adversaire pourra fléchir, mais non, ils sont durs.
Et si, rassurez-vous, nous ne blâmons personne, seulement d'accord, nous vous informons au quotidien de ce que les uns et les autres font.
Et puis, vous avez, j'avais demandé à Béni l'autre jour, c'est concernant l'éventuelle voleuse des biens de Diobo. Je voudrais savoir où c'en est, quoi, cette histoire.
L'héritage de Diobo Boukari, ce qu'il en est.
Il en est, parce qu'il y a une dame, là, une avocate, soi-disant, qui s'accapare de ses biens en France et ici.
Oui.
Moi, je suis de la famille.
Ah bon?
Oui.
En principe, vous devrez avoir des gens beaucoup plus proches avec.
Oui, je sais avant de lui en parler, puisque c'est lui qui en a parlé dans son journal.
Merci beaucoup.
Je suis proche de lui.
Merci. Et si,
merci.
C'est fini aujourd'hui? Et si c'est fini? Il n'y a pas d'exhortation à l'alternance aujourd'hui. Merci, Essi.
Oui.
Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour. Je me nomme Benoît Dagoué.
Benoît Dagoué.
Oui. Moi, je voulais dire que, premièrement, à partir du problème de soja.
Oui.
Il faut que ces deux ministres prennent. Je ne sais pas si. Pardon, si le ministre travaille pour plaire au président, mais pour le bien-être de la population. Et à chaque fois, à leur sortie, c'est le chef de l'État, la première ministre. J'ai pas allusion au ministre de l'Éducation. Hier, lorsqu'il s'est promené, il a dit qu'il est parti souhaiter bonne chance au nom du président de la République. Bon, je reviens sur les...
En fait, nous parlons des ministres impliqués dans la filière soja, hein?
Oui.
OK.
Et revenons sur le problème des partis politiques. Je pense que nous, la nouvelle génération, nous sommes là, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On le souhaite du bon vent et bon vent aussi à partir de l'UFC. Il faut que tout le monde oublie l'intérêt personnel pour penser à l'intérêt national.
Merci beaucoup. Même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui.
Également.
Oui, c'est monsieur?
Comme là?
Oui. Vous nous appelez de Lomé?
Oui, de Lomé.
De quel quartier?
Kanyikopé.
Comme là, depuis Kanyikopé?
Oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Ben, un petit coucou à vous pour vos émissions.
Ah, merci, ça fait chaud.
Je me félicite d'avoir également introduit un petit sujet une fois concernant le renouvellement de cette classe politique-là qui s'est embourbée. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le corollaire de tout ceci. La faute, la première, peut-être, c'est au parti uni qui, bien assis avec ses tentacules, les a démobilisés. Vous savez, c'est la règle de diviser pour régner qui les a eus. Mais 30 ans a été assez long. C'est des gens qui n'ont aucune expérience en politique réellement. Économiste par ici, professeur d'université par là, mais aucun dedans. Et ce qui appelle réellement aujourd'hui à ce que nous corrigions pratiquement, c'est que demain, nous ayons des gens qui communiquent avec le peuple. Vous-même, la presse, vous n'avez jamais été assez loin. Vous ne faites jamais de débats contradictoires. Tout ce que vous faites, c'est un seul candidat que vous appelez qui débite pour lui, il s'en va. Tout cela donne cours à des invectives. Mais je suis sûr que si nous corrigeons très rapidement et renouvelons, on sera en place pour mieux faire prochainement. Bon vent à tous. Mais que tous ces bons gars-là reconnaissent en eux. Nous n'avons plus de leader de parti politique. Tout est à reprendre à zéro. Et s'ils le font, ben, bon vent à tout le monde. Et nous, pour nous, nous attendons la chose en 2025, pas en 2030. Courage à vous également.
Autrement dit, nous devenons des Juifs qui attendons le Messie. C'est ça? Merci. Super. Merci beaucoup. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui. C'est Kwame.
Oui, dame, si me charge qu'il faut alterner.
Et si vous avez passé le message de l'alternance?
Oui,
okay.
Il faut alterner. Il faut alterner partout, pas seulement au niveau du pouvoir. J'en ai donné l'exemple la dernière fois. Je ne sais pas si le président de la République prendra son courage pour le faire. Ça serait un vrai exercice pour lui dans son parti.
Pour faire quoi?
Oui, il n'a qu'à appeler ses capitaines et leur proposer son fauteuil.
Fauteuil du parti
fauteuil ou... du président de Unir.
Uh-huh.
Voilà, parce que si l'opposition prend le pouvoir aujourd'hui, il faudrait que certains rentrent dans l'opposition. Et ceux qui vont rentrer dans l'opposition, c'est Unir. Et qu'ils soient un parti organisé. Je ne veux pas voir un parti désorganisé devant l'opposition lorsque l'opposition prendra le pouvoir.
Mm-hmm.
C'est un besoin pour...
Vous êtes plutôt dans la politique fiction, là.
Non, ce n'est pas la politique fiction. Quand vous êtes dans un pays, quand quelqu'un gouverne, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui critique.
Naturellement.
Et des critiques objectives.
Mm-hmm.
Voilà. Mais quand ceux qui sont en face sont désordonnés, vous êtes perdus. Vous ne savez pas si ce que vous faites est bien ou mal.
Mm-hmm.
C'est dans ce sens-là que j'ai demandé à ceux de l'UFC la dernière fois s'ils étaient des dinosaures ou bien des démocrates, ou bien des vautours ou bien des démocrates, d'aller poser la question à ceux-là. Parce que là où nous ne sommes pas là pour la diversion. Ce qui se passe au niveau du CAR et de l'UFC, le peuple n'a pas besoin de ça. Ce sont des cuisines internes qui peuvent faire et donner une image digne de ce nom-là. Au moment où Kukuruku, la dernière fois, est parti à Palimé pour faire les pré-campagnes, eux sont là à se bagarrer. Est-ce que ça permet au pays d'évoluer?
Mm-hmm.
La réponse est non. C'est pour ça que nous demandons à l'opposition de se ressaisir. En tout cas, on va balayer la maison.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kwame. Alors, Sylvestre Béni, et s'il voudrait que tu l'éclaires un peu sur l'héritage de feu Diogo Boukari?
Je ne suis pas le notaire de la famille, non. Écoutez, oui, c'est vrai, nous avons fait un dossier sur l'héritage de Diogo Boukari, la manière dont la succession a été gérée par une notaire de Lomé. Et l'affaire est encore là pendante, donc... devant les tribunaux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les enfants de Diogo Boukari qui sont véritablement qui sont vent debout contre la gestion donc de la notaire et demandent à ce qu'elle passe donc la mère, à ce que on puisse la dessaisir de la succession, puisque la manière dont elle a géré la succession n'est pas véritablement, bon, disons, n'est pas normal au bas mot.
Dans ce cas, les ayants droit de Diogo Boukari devaient plutôt s'adresser au juge, quitte à celui-ci de désigner une nouvelle au notaire pour gérer la succession.
Ça a été fait, si vous vous rappelez, ça a été fait, mais la dame persiste et signe. C'est-à-dire refuse en fait de céder la succession, ce qui fait que beaucoup donc de plaintes ont été déposées contre elle, tout ça. Bon, l'affaire est encore là, nous allons revenir sur cette affaire
vivement. Et s'il attend de toute façon la prochaine parution,
oui, comme madame Essie dit qu'elle est de la famille,
oui.
Nous ferons tout pour la contacter et voir ce qu'il en est.
Merci. Voilà. Tu as la parole pour ton mot de conclusion, peut-être un carton.
Non, un carton, j'ai pas de carton, mais je vais revenir en fait sur la filière soja. Je demande véritablement que quelque chose soit fait. Parce que lorsque vous voyez nos compatriotes hier, les gens étaient véritablement déboussolés totalement. Ils ne savaient pas à quel sens se fouer pour la petite anecdote. Il y a certains qui disent que même ils sont prêts même à aller voir le président si ça continue. d'autres menacent d'ailleurs de ne plus véritablement produire le soja, donc de se tourner vers d'autres cultures et tout. Je crois que si on arrive à ce point, c'est véritablement inquiétant.
Merci beaucoup. Abbas Issaka?
Non, bon, c'est pour continuer dans le même sens, parce que quand les gens se sont lancés dans la production, dans la culture du soja, il faut aussi les encourager. On dit que la production devait servir à la PIA. On va transformer les choses là-bas. Mais la PIA, 80 tonnes, 80 000 tonnes qui sont là, est-ce que la PIA ne peut pas les prendre? Et on laisse ces femmes-là, qui ont laissé même la culture même du maïs, la culture du manioc, tout ça, là, elles sont jetées parce qu'il y a un peu d'argent là-bas. Et on ne peut pas donner aussi des agréments pour qu'elles puissent aussi écouler les produits ailleurs. Mais si ce n'est pas fait, pourquoi on va encourager encore les gens d'aller faire la culture? Il faudrait que les ministres, les deux ministres, c'est-à-dire à commencer par le ministre de l'Agriculture et le ministre du Commerce, qui viennent s'expliquer qu'est-ce qui se passe.
Pour expliquer ce qui se passe au juste. Et
quelles solutions trouver à ces gens-là.
Ça fait plus de 6 mois.
Merci.
Plus de 6 mois que cette
affaire. Virgin Loco?
Non, moi je voudrais revenir sur une affirmation de Dame Essi tout à l'heure qui disait que les déboires de l'opposition, ou bien je ne sais pas s'il est en train d'ironiser, c'est une stratégie de l'opposition, ou bien elle a dit non. Bon, je pense quand même que se tirer des balles dans le pied à l'approche d'une élection, ce n'est pas une stratégie, d'autant plus que les opposants ont en face d'un pouvoir qui est une machine électorale, une machine à gagner, et donc l'opposition devrait plutôt réfléchir en mettant en œuvre des stratégies pour pouvoir taper le pion à l'opposition et élever au pouvoir et élever aussi le débat, parce que nous avons des enfants qui sont en train d'apprendre et non ces discours de coups de récréation.
Ce que je sais, à la veille des échéances électorales, on gagnerait de beaucoup à envoyer des messages clairs, des messages de rassemblement dans l'opinion, hein, plutôt que...
Qui est la machine à gagner? Je sais pas.
Non, je dis...
Le pouvoir.
Estelle, pour
nous basons sur les faits.
Respectez la seule femme parmi nous.
On sait comment le pouvoir gagne aussi.
Estelle.
Mais est-ce que je peux parler? Je n'ai rien à dire. C'est bon. Bon après-midi à tous.
Eh bien, Gadiel, vous avez fait votre travail fâché contre vous. Oui, Gadiel.
Carton vert.
Oui.
Au monde scolaire. À tous les acteurs, depuis le ministère de l'enseignement jusqu'aux enfants, aux élèves. Les examens ont déjà commencé le mois, en tout cas dans ce mois. Donc, on souhaite que tout se passe bien et que les taux de réussite grimpent. Absolument.
Merci. À propos des examens, c'est un scénario. Hein. À chaque examen officiel, il y a nos amis de la presse publique qui font les tours avec les autorités, et quand on interroge les candidats, à la toute première épreuve du premier jour, les candidats trouvent toujours les épreuves abordables, ils sont confiants. J'espère qu'il en sera ainsi au résultat. C'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.